Il est très difficile d'expliquer ce que ressent une personne assignée à résidence. Contrainte à vivre dans une aire délimitée, pointant au commissariat, 4 fois par jour, à heure fixe et sans emploi, du fait de ses contraintes temporelles et spatiales. C'est un état qui se situe entre deux réalités. La réalité de la vie quotidienne de toute personne jouissant de son entière liberté, et la réalité de l'existence journalière d'une personne emprisonnée, privée de liberté. Être assigné à résidence, c'est avoir les principaux inconvénients du prisonnier, sans avoir les caractéristiques distinctives de l'homme libre. C'est être captif d'une administration, mis sous tutelle par un État, bien qu'étant adulte et sain d'esprit, constamment entre deux eaux et sans aucun statut réel. L'assignation à résidence n'offre aucune perspective, car il s'agit d'une mesure administrative n'ayant a priori aucune limite dans le temps. S'installe alors une vie au quotidien où chaque jour est très similaire au précédent. L'assigné à résidence ressemble au prisonnier qui vit sa peine comme une succession de journées semblables, où seule la montre est là pour lui signifier que le temps passe. Pour avoir moi-même été prisonnier, j'ai été saisi de constater que beaucoup de condamnés à de longues peines collectionnent les instruments à mesurer le temps dans leurs cellules, comme pour se rassurer sur la consommation effective de leur peine.
Merci beaucoup. Donc voilà, c'était les mots de Kamel Daoudi qui est assigné à résidence depuis plus de 15 ans. Et on voulait en parler dans l'émission d'aujourd'hui, parce qu'il y a un événement important dans sa lutte qui a eu lieu il y a quelques jours. Il y a la CEDH qui a rejeté, qui a déclaré irrecevable son recours, donc qui conteste cette assignation à résidence perpétuelle. Et suite à ce rejet de la cour, il y a son épouse Sandra qui a entamé une grève de la faim et de la soif. Et donc on va pouvoir l'écouter à l'antenne aujourd'hui pour parler de ça. Donc pour parler de l'assignation à résidence, des méthodes répressives de l'administration, mais aussi du rôle des personnes proches de prisonniers, prisonnières et d'assignés à résidence. Et en fait, comment la prison ou l'assignation à résidence affecte aussi énormément leur quotidien. Est-ce que du coup on peut avoir Kamel en ligne? Ouais, c'est super.
Bonjour.
Ah bonjour, tu nous entends bien?
Bonjour, je vous entends très bien. Bonjour la courte échelle, bonjour Radio Galère, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs. Alors si j'ai écouté votre présentation, j'espère que je n'écorche pas vos prénoms. Bonjour Émilie, Camille, je crois que j'ai entendu Issa, mais Charlie ou Charline, je ne suis pas sûr.
C'est à peu près ça. Mais,
voilà.
Mais en tout cas, merci beaucoup d'être là aujourd'hui et de donc parler. Donc je ne sais pas si tu es au courant, Radio Galère, du coup, c'est potentiellement écouté dans les tôles autour de Marseille. Oui. Donc les Baumettes, Luynes, Tarascon, Arles.
Je salue tous ceux qui sont dans la galère dans ces prisons-là, dans les centres de rétention administrative.
Également, voilà.
Ils ont l'occasion d'écouter, et puis bien sûr leurs familles et leurs proches, puisque derrière, ou plutôt aux côtés de chaque prisonnier et prisonnière, il y a aussi des familles et qui vivent toute cette situation délétère. Donc pour moi-même avoir été prisonnier, je sais ce que ça comme énergie, comme difficulté au quotidien pour les parloirs, pour le courrier et pour tout le quotidien carcéral. Donc voilà, je salue toutes les personnes qui sont de part et d'autre des murs et je leur souhaite beaucoup de courage et de persévérance.
Ouais,
et bien sûr également à leur famille.
Merci, ouais, on les salue également. Et donc on a pu écouter tes mots au début de l'émission, donc avec une ton ressenti de l'assignation à résidence comme prison mentale. Mais est-ce que tu voudrais bien nous expliquer un peu plus
comment j'en suis arrivé là?
Voilà, l'assignation à résidence, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça a été pour toi depuis 15 ans?
Bah alors je vais me présenter très rapidement. Donc je m'appelle Kamel Daoudi, j'ai 49 ans. Je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans, je suis de nationalité algérienne. J'ai acquis la nationalité française par naturalisation. Et il s'avère qu'en 2001, j'ai été arrêté peu de temps après les attentats du 11 septembre et mis en examen dans un dossier assez compliqué où on m'a accusé d'appartenir à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Donc ça s'est fait à une époque assez particulière. J'ai toujours nié les faits qu'on m'a reprochés, mais cela n'a pas empêché les autorités judiciaires à me condamner en première instance à 9 ans ferme et qui ont été ramenés en appel à 6 ans de prison ferme. J'ai été déchu de la nationalité française et au cours de ma détention. Et en avril 2008, je me suis retrouvé sous écrou extraditionnel pour être expulsé vers mon pays de naissance, l'Algérie, donc, que j'ai quitté à l'âge de 5 ans, puisque après le reste de mon existence, je l'ai passé en France.
Et donc, ça te va oui. Si je pose des questions en même temps?
Oui,
ça
oui,
te dérange
sûr,
pas.
N'hésite pas à m'interrompre, ouais. Si je suis trop long. Ouais.
Je me demandais, cette décision d'expulsion, c'était suite à une peine judiciaire d'interdiction de territoire, c'est ça?
Ou voilà, c'est... exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu, en plus de la condamnation pénale, une mesure administrative qui est l'interdiction définitive du territoire français, qui a été bien sûr facilitée par la déchéance de ma nationalité. Mmh. Et donc, je me suis retrouvé le 21 avril 2008, au lieu de sortir de prison comme tout un chacun libre, une bonne fois pour toutes, là, on m'a remis les menottes et on m'a ramené à la préfecture de police de Paris pour me retirer mes papiers, en quelque sorte, il y a tout un protocole lors d'une expulsion. Mm. Et donc ensuite, on m'a ramené au centre de rétention administrative de Vincennes, où j'ai passé quelques jours, et donc les autorités françaises avaient prévu de m'expulser vers mon pays. Il s'avère que j'ai fait donc une requête en urgence auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour demander à ne pas être expulsé, puisqu'avec la condamnation que j'avais exécutée intégralement, il y avait un risque important de traitement dégradant et inhumain au sens de la Convention européenne des droits de l'homme si jamais j'étais livré aux autorités algériennes. Et donc c'est comme ça que le 23 avril 2008, la Cour européenne des droits de l'homme prend une décision en ma faveur. Il demande à l'État français de sursoir à mon expulsion, c'est-à-dire de ne pas mettre à cuisson mon expulsion. Et donc, le ministère de l'Intérieur décide de m'assigner à résidence. L'assignation commence le 24 avril 2008.
Oui,
je sors du centre de rétention administrative et on me demande d'aller dans la première commune où j'ai été assigné à résidence, à Aubusson, dans la Creuse.
D'accord. Et donc, pour résumer un peu cette étape de ton parcours, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc, comme ça arrive souvent, quand on n'a pas la nationalité française, pas les bons papiers, une fois qu'on a une peine judiciaire, bon là, en plus, avec une entreprise terroriste, on peut se retrouver à la sortie de prison en crape, en vue d'un éloignement ou d'une expulsion. Donc ça, c'est ce qui devait être ton cas, donc vers l'Algérie. Oui. Sauf que le droit international ne permet pas de t'expulser là-bas, puisque tu risquais des traitements inhumains et dégradants. Et en fait, la durée de détention en CRA est limitée, comme toute privation de liberté en théorie. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont été obligés de t'assigner à résidence, c'est ça?
Oui, alors à l'époque, la durée en CRA était beaucoup plus limitée qu'actuellement, puisque maintenant, je crois que ça peut être jusqu'à 90 jours, deux fois 45 jours,
c'est ça, ouais.
Si mes informations sont bonnes. Entre-temps, bien sûr, il y a eu plusieurs lois qui ont permis cette augmentation de la période en CRA. Quand j'y arrive, il y a un mouvement, un petit peu de contestation dans les centres de rétention administrative. Et il s'avère qu'il y a une personne qui meurt dans des conditions assez troubles au centre de rétention administrative. Et ça fait, et là, il y a eu une détention assez importante. Voilà,
D'accord.
Je reviens dessus dans un chapitre de mon bouquin. Oui. Peut-être qu'on aura l'occasion d'évoquer cela, peut-être.
Oui, j'espère, parce que c'est vrai que c'est assez récurrent, ces allers-retours en fait, entre prison et CRA qui sont alimentés par le système répressif lui-même qui rajoute aux peines judiciaires des peines administratives. Et donc, comme c'est le cas de ton assignation à résidence, c'est ça, c'est une décision administrative.
Oui, effectivement. L'assignation à résidence, en fait, ça consiste à rester dans un lieu déterminé avec des obligations de pointage et également avec la possibilité d'un couvre-feu. Donc, cette mesure-là, elle est prise soit par le préfet, soit par le ministère de l'Intérieur, selon le profil. Pour moi, il s'avère que le dossier est géré directement par le ministère de l'Intérieur. J'ai eu depuis pratiquement 15 années d'assignation à résidence, entre 2 et 4 pointages quotidiens, absolument tous les jours, y compris les jours fériés, y compris le jour de Noël, y compris le jour de l'an, y compris le jour de mon anniversaire. Donc j'ai l'obligation d'aller au commissariat de police ou bien à la caserne de gendarmerie, selon que je suis en zone police ou justice, pour émarger un registre et signifier ma présence dans les limites de la commune. Si jamais je manque à ces obligations, eh bien, je risque entre 1 an et 3 ans ferme de prison. Donc 1 an ferme en cas d'oubli de pointage et jusqu'à 3 ans ferme si jamais je quitte le périmètre qui m'est assigné. Donc le périmètre, c'est en général celui de la commune, mais il peut être encore plus restreint. Ça peut être une partie éventuellement de la commune.
Oui, dans ton livre, tu parles à un moment de ces 4 mois fermes que tu t'es pris juste pour 25 minutes de retard à un pointage.
Oui, exactement.
Qui t'a envoyé en détention, du coup.
Tout à fait. Donc, il y a toujours, en fait, cette épée de Damoclès constamment sur la tête d'une personne qui a signé à résidence et qui est assez terrible, puisqu'en fait, le moindre écart dans une routine... est très délétère, hein, puisque moi, par exemple, c'est plus de 20 000 pointages que j'ai effectués en près de 15 ans d'assignation à résidence.
Ouais, c'est impressionnant. Donc, et là, justement, tu parles de 15 ans, c'est une durée énorme, oui. Alors que c'est des mesures qui... Enfin, les mesures administratives, elles sont censées être temporaires. Qu'est-ce qui fait que, toi, ça fait si longtemps que tu subis
dans les premiers arrêtés d'assignation à résidence, il y avait une obligation de trouver un pays d'accueil. Donc, le gouvernement français me disait, voilà, la Cour européenne des droits de l'homme nous a indiqué de ne pas vous expulser vers votre pays d'origine. En revanche, vous devez trouver un pays d'accueil. Bien sûr, ma situation est assez médiatisée. Et puis, donc, j'ai fait, bien sûr, des requêtes auprès de quarantaine d'ambassades de pays différents, tout en veillant à faire des requêtes auprès de pays qui n'ont pas d'accord diplomatique avec l'Algérie, hein, puisque ça reviendrait au même, hein, finalement, si je suis expulsé vers un pays qui a des accords d'extradition avec l'Algérie, bon bah c'est ça ne fait qu'ajourner en fait le problème. Ça limite finalement le nombre de pays. Et sachant aussi que lorsqu'on fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français, ça concerne en fait l'ensemble des pays qui sont signataires des accords de Dublin, qui sont des accords qui vont au-delà de l'Union européenne, puisqu'elles concernent également des pays qui appartiennent, qui sont dans le continent européen, mais qui n'appartiennent pas à l'Union européenne, comme par exemple l'Islande ou la Suisse ou la Norvège. Donc ça limite encore d'autant plus les possibilités d'accueil vers des pays tiers.
Et donc du coup, comme tu n'as pas de pays d'accueil, c'est une attente potentiellement infinie, quoi.
Alors bien sûr, j'ai la possibilité de demander le relèvement de cette interdiction du territoire français. Donc là, je dois le faire auprès de la dernière juridiction qui a statué sur mon dossier, donc à savoir la Cour d'appel de Paris, qui s'est prononcée sur ma condamnation définitive. Le problème, c'est que j'ai fait 3 demandes de relèvement de cette interdiction du territoire et elles ont été refusées à chaque fois. Et à chaque fois, la Cour d'appel a mis en avant ma dangerosité supposée, mais cette dangerosité, elle est alimentée essentiellement par ce qu'on appelle des notes blanches, c'est-à-dire des documents non datés et non signés, qui émanent des services de renseignement et qui sont en quelque sorte des synthèses de mesures de contrôle et de surveillance qui peuvent se passer soit au quotidien, soit sur mes communications téléphoniques ou sur l'activité que je peux avoir sur les réseaux sociaux, etc.
Donc en fait, l'administration est juge et partie de ton cas, quoi.
Exactement.
C'est ces documents confidentiels produits par elle qui permettent au juge de justifier ses décisions.
Voilà.
D'accord.
Mais en même temps, en fait, c'est-à-dire que effectivement, l'administration est juge et partie. Mais elle prétend, en fait, le ministère de l'Intérieur prétend exécuter l'assignation à résidence tant qu'il n'y a pas de relèvement de l'interdiction du territoire ou tant qu'il n'y a pas de solution d'un pays tiers. Mais en fait, l'administration rejette la faute sur la Cour d'appel de Paris, donc sur la justice, et réciproquement. Mmh. Donc en fait, la décision, elle est bicéphale, elle appartient aux deux entités, mais comme chaque partie gère une partie en fait du problème en quelque sorte, chacun se renvoie la balle et donc finalement c'est ça qui fait que y a cette perpétuité en fait.
Ouais, on pourrait faire une émission entière sur ces rouages de l'administration et cette multiplication aussi des outils répressifs depuis. Donc de l'administration depuis l'état d'urgence. Mais je me permets de poser une question plutôt sur le fait que tu aies dû changer très souvent de lieu d'assignation et de résidence et l'impact que c'est pu avoir sur ta famille, parce que j'aimerais aussi qu'on parle plus de ton cadre familial et du coup des revendications de Sandra,
oui, bien sûr.
Celles qui ont été portées cette semaine. Et donc, qu'elle en fait, porte depuis 15 ans aussi dans sa lutte.
Au début, quand j'étais assigné à résidence, donc j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme. Donc je lui ai expliqué toute mon histoire. Je ne lui ai absolument rien caché de ma situation. Et donc, assez rapidement, en fait, on a vécu ensemble. Donc on a pu avoir une vie à peu près, on va dire, normale, entre guillemets, pendant environ un an, et puis ensuite donc j'ai dû l'accompagner à l'occasion d'un rendez-vous médical, hein, puisque ça s'avérait qu'elle était enceinte de 7 mois, et ce même jour-là, il y a la décision de la Cour européenne des droits de l'homme sur le fond, qui est tombée donc le 3 décembre 2009.
Et celle là, sur le fait que tu pouvais pas être expulsé, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu une première décision qui a demandé aux autorités françaises d'attendre la décision définitive. La décision est tombée seulement le 3 décembre 2009.
D'accord.
Donc là, il s'avère que j'ai quitté momentanément le territoire où j'étais assigné à résidence et ça m'a valu une condamnation à 6 mois ferme. Suite à l'exécution de cette peine de prison pour ne pas avoir respecté à la lettre les conditions d'assignation à résidence, au lieu de revenir au domicile familial, là, on m'a éloigné vers un petit village en Haute-Marne. Et j'ai été assigné dans une chambre d'hôtel. En fonction en fait des fermetures des hôtels pour diverses raisons, hein, pour des vacances ou bien parce que les gérants des hôtels commençaient à connaître un petit peu ma situation et ça créé des difficultés par rapport à leur clientèle, etc. Mmh. Le ministère de l'Intérieur a dû me changer à plusieurs fois de lieu d'assignation à résidence pour parer à toutes ces difficultés passagères.
Et donc,
comme ça, voilà, j'ai eu jusqu'à 7 points de chute. Et le dernier en date, c'est à Aurillac, dans le Cantal.
Et donc des endroits complètement aléatoires finalement sur le territoire et qui pouvaient être du coup très loin de ta famille.
Oui, puisque ça allait de la Haute-Marne au Tarn, ou bien la Charente-Maritime. Donc c'était plusieurs heures de route pour ma femme et mes enfants. qui ont continué d'essayer de sauvegarder une vie familiale malgré tous ces éloignements. Et puis, bien sûr, il y a eu aussi la fréquence de pointage qui a augmenté. Il a fallu à chaque fois que je fasse des procédures auprès du tribunal administratif lorsque j'ai estimé qu'il y avait un abus de pouvoir. Voilà, donc selon l'actualité, mes pointages sont allés de 3, 2, 3, 4. Voilà. Donc ça, c'est pour ma situation personnelle, mais aux côtés de l'abstraction de tout cela, toute cette situation-là, il y a ma femme et mes enfants qui eux, sont constamment invisibilisés et on ne tient pas compte de toute la charge mentale que cela représente d'être la femme d'une personne assignée à résidence ou bien les enfants d'une personne assignée à résidence, puisque il m'est arrivé même d'être assignée à résidence sans résidence, c'est-à-dire d'être assignée à résidence et SDS, et sans domicile fixe. Donc ça, c'est vraiment... ça m'est arrivé pendant 2 mois, et là, il a fallu que ma femme puisse trouver un appartement, qu'elle loue l'appartement, et en fait, le ministère de l'Intérieur s'est complètement défaussé au niveau de sa responsabilité sur ma femme, qui a dû à chaque fois trouver une solution urgente pour me trouver un emploi, pour me trouver un appartement, pour m'aider financièrement, puisque par exemple, actuellement, pendant toutes ces 15 années, je n'ai pas eu la possibilité ou carrément l'interdiction de travailler, ce qui est le cas actuellement. Et donc, je ne bénéficie d'aucune aide, ni RSA, ni quelconque allocation, ni une aide. Donc, ma femme ne m'envoie pas un peu d'argent au quotidien, je me retrouve sans rien, quoi, sans la possibilité de me tenir propre, de manger, etc.
Donc là, oui, on peut faire vraiment un parallèle avec les femmes de prisonniers, enfin les conjoints, oui, conjointes de prisonniers, prisonnières qui doivent justement assurer cette charge financière, envoyer un peu de mandat, venir au parloir et se déplacer, attendre et supporter une charge financière. Donc qui est aussi une des conséquences de l'enfermement et du système carcéral qui est, comme tu l'as dit, très invisibilisé. Et donc c'est ça que Sandra voulait visibiliser avec la grève de la faim et de la soif.
Oui. C'est à l'occasion d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, cette fois-ci, sur la nature même de mon assignation à résidence sur 15 ans. Il s'agissait en fait de démontrer que cette assignation à résidence était restrictive de liberté, privative de liberté, c'est-à-dire qu'elle pouvait s'apparenter à de la prison, et non pas simplement restrictive de liberté, c'est-à-dire violant une partie en fait de mes droits à avoir une vie privée, familiale, etc.
Oui, car c'est des catégories juridiques différentes qui font que si c'est privatif, ça doit être forcément, ça doit répondre à un certain nombre de conditions que là ta situation ne répond pas, c'est ça? Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais...
Et donc, en fait, cette requête, elle a été introduite en octobre 2018. La décision est arrivée le 14 septembre 2023, donc il y a quelques jours. Et c'était un peu une deadline pour nous, puisque on ne s'attendait pas, en fait, à ce que la Cour européenne des droits de l'homme refuse ma requête, que je sois débouté, sur des problèmes de procédure. C'est-à-dire qu'en gros, la Cour européenne des droits de l'homme a dit on ne va pas se prononcer sur le fond de l'affaire, on ne va pas juger si l'assignation à résidence, telle que vous la vivez, elle est privative ou restrictive de liberté. Nous, on estime que vous n'avez pas fait tous les recours possibles en France. Et donc, tant que vous n'aurez pas fait tous les recours, eh bien, on ne pourra pas juger du fond de l'affaire. Et donc ça, en fait, ça revient à me remettre en face à face avec les autorités françaises, puisque la jurisprudence en France, c'est que l'assignation à résidence, tant qu'on ne dépasse pas les 12 heures de maintien en confinement effectif dans un lieu, c'est-à-dire concrètement que je reste dans une maison, dans un appartement, si je reste moins de 12 heures, alors ce n'est pas considéré comme une mesure privative de liberté. Et donc ça, c'est la jurisprudence actuelle en France, et c'est ce que je souhaitais faire étudier par la Cour européenne des droits de l'homme, et elle ne l'a pas fait.
D'accord. Donc, par exemple, si ton couvre-feu durait plus de 12 heures, par exemple, ça rentrerait
plus dans... Ça
serait
considéré comme une privation de liberté.
C'est dommage qu'on ait, pas pu l'entendre ce soir, mais on envoie beaucoup de soutien à ta famille, donc à Sandra, oui, et à tes enfants. Et il me semble qu'on peut entendre sa parole sur son compte Twitter, c'est ça ? Pour les auditeurs qui voudraient aller écouter.
Oui, alors il faut aller sur le compte Twitter Sentier Battant, en un seul mot, Sentier Battant. Et d'accord, là, vous pouvez suivre le fil qui relate cette action. Donc, en fait, l'action concrètement, c'est que Sandra a fait une grève de la faim et de la soif pendant 3 jours continus et 14 heures, donc plus de 3 jours et demi. Donc, elle n'a pas bu la moindre goutte d'eau ni mangé le moindre aliment. Et c'était sa façon à elle de montrer toute la souffrance qu'elle a eue pendant ces presque 15 ans avec nos enfants, et de visibiliser un petit peu cette souffrance, montrer que voilà, derrière ma situation, il y a toute une famille qui subit des atteintes à ses droits les plus fondamentaux, qui sont les droits à la vie privée, qui sont les droits à une correspondance privée, qui sont les droits de se déplacer librement, et d'autres droits qui sont normalement régis par la Convention européenne des droits de l'homme et garantis également par la Constitution française. Mmh. Et donc il y a eu quelques articles de presse dans des médias tels que Le Monde, Libération, Lundi Matin, et d'autres, Le Courrier de l'Atlas, enfin j'en passe et je ne sais pas citer l'ensemble. Et il y a également une tribune qui a été publiée sur mon blog qui explique concrètement les raisons de cet acte.
D'accord, merci beaucoup. Et il me semble aussi que Sandra s'est exprimée dans l'émission L'Envolée, qui sera normalement...
Oui, effectivement, il y a une interview de Sandra sur L'Envolée. Il y a également, je vous le dis en exclu, il y a également une interview à apparaître prochainement sur Radio Parleur.
D'accord. Eh bien, voilà, donc, en tout cas, cette émission sera possible, pourra être écoutée sur Radio Galère jeudi soir. Il me semble qu'elle est rediffusée jeudi. Voilà, donc pour celles qui voudraient l'écouter en direct. Et après, bien sûr, il y a les podcasts de L'Envolée sur leur site internet. N'hésitez pas à l'écouter. Merci pour tout ce que tu nous as dit ce soir. Je sais juste pour dire à celles qui nous écoutent que c'est toujours la courte échelle, qu'on est en interview avec Amel Daoudi et qu'on dépasse un peu le temps, mais voilà, on peut le faire et donc on en profite. Moi, j'avais peut-être encore une question sur, puisque tu disais que la Cour européenne des droits de l'homme t'avait reproché de ne pas avoir utilisé toutes les voies de recours internes en France. Comment t'es, toi, par rapport à cette décision ? Est-ce que t'as envie de continuer la lutte, notamment par des voies juridiques ? Comment tu te projettes pour la suite, si c'est possible?
Alors, bien sûr, cette décision a été un coup de massue parce qu'on ne s'attendait pas à ce que la... Enfin, on avait prévu, bien sûr, mes avocats et moi, cette hypothèse, mais on ne pensait pas qu'elle serait préférée à une hypothèse plus intéressante qui aurait été de lire le mémoire de fond. Enfin, il y a eu plusieurs mémoires, il y en a eu 3. C'est une procédure écrite qui est assez longue, hein, elle dure plus de 4 ans. Mais bon, après, une fois le choc passé, il s'agit de continuer, bien sûr, à exercer les recours qu'on nous dit qu'on n'a pas exercé. Donc, à savoir un recours devant la Cour de cassation, et au moins 1 voire 2 recours devant le Conseil d'État. Donc ça, on va s'y atteler. C'est des recours qui sont relativement long, puisque ça peut prendre entre 1 et 2 ans. Donc, dans les prochains mois, bien sûr, on continue. Enfin, ces recours déjà ont été introduits, donc ils sont pendants. On attend les décisions même du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Mais ensuite, il faudra refaire une procédure. Il n'existe pas de procédure en urgence devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, ça signifie qu'une fois les résultats de ces recours connus, il s'agira pour nous de ressaisir de nouveau la Cour européenne des droits de l'homme. Et cela prendra de nouveau 4 ans. Donc, ça signifie qu'il y a encore devant nous au moins entre 5 et 6 ans d'attente avant d'avoir une décision, cette fois-ci, sur le fond de la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, cela ne préjuge bien sûr rien du résultat. La Cour européenne des droits de l'homme pourra éventuellement nous débouter également sur le fond. C'est encore une autre hypothèse. Et même à supposer que je gagne cette fois-ci devant la Cour européenne des droits de l'homme, l'application de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, donc dans 5 ou 6 ans, pourra également être traité à diverses interprétations de la part des autorités françaises. Donc le combat est loin d'être terminé. Bien sûr, on va continuer ce combat sous forme juridique, sous forme également médiatique, et essayer aussi d'avoir un peu plus de soutien, expliciter mieux notre cause et permettre à d'autres personnes de nous rejoindre dans cette lutte de manière à ce qu'elle puisse aboutir.
Merci beaucoup. Est-ce que sur le plateau, il y a d'autres envies de questions pour Kamel ? Est-ce que toi, Kamel Daoudi, tu voudrais rajouter quelque chose, un sujet auquel on n'a pas parlé ?
Oui. Alors, il y a une initiative là qu'on est en train de préparer. Donc, d'ici quelques jours, peut-être, ça sera l'ordre de quelques jours, voire de quelques semaines. Il y aura un communiqué qui sera fait et je demande aux personnes qui suivent votre émission, La Courte Échelle, et autour de vous, de nous soutenir dans cette initiative de manière à ce qu'on ait un peu plus de visibilité et que cette situation qui ne fait pas connue de toutes et tous soit un peu plus renseignée et un peu plus soutenue, parce que c'est vrai que c'est assez difficile d'agréger davantage de personnes pour nous soutenir dans ce combat.
Et donc ce communiqué, on pourra le trouver sur ton blog, c'est ça ?
Oui, sur mon blog ou bien sur d'autres médias, on s'y attelle, c'est tout en cours de préparation, et donc voilà, je vous le dis en exclusivité sur votre émission.
Eh ben, on en parlera à la courte échelle, en tout cas, ça c'est certain. Encore merci vraiment pour nous avoir parlé ce soir à l'antenne. On va conclure l'émission sur une courte rubrique de brève.
Ben moi, je vous remercie. Hein. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné la parole. Et puis, je salue tous les auditeurs et auditrices. Et je les remercie pour leur écoute attentive.
Et ben, merci à toi. Et on va passer son à la fin de l'émission que tu as préconisé. Donc,
merci beaucoup. Je reste en ligne pour écouter les brèves.
Super. Et ben, merci.
Merci.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
La première brève, c'est que hier, il y a eu une manifestation à Marseille et je pense ailleurs aussi, contre le racisme d'État, l'islamophobie et les violences policières. Les revendications, c'était justice pour Mehdi, Naël, Souhel, Mohamed, Zineb et toutes les autres victimes, retrait du permis de tuer, libération et arrêt des poursuites de tous les révoltés, retrait des lois islamophobes et sécuritaires et de la loi asile et immigration, régularisation de tous et toutes, fermeture des CRA, prise en charge immédiate des jeunes exilés à la rue.
Durant la manif, on a pu voir quelques slogans comme amnistie pour toutes les révoltées, liberté pour tous les prisonniers et toutes les prisonnières, syndicat Alliance Police va manger tes morts, le racisme d'État ne se referme pas et abolition de la police. Il y a aussi eu un parloir sauvage en fin d'après-midi devant le CRA de Marseille qui a permis de faire du lien avec les gens à l'intérieur. Et sinon, on voulait aussi vous parler d'une mort récente qu'il y a eu au CRA de Vincennes. C'est la deuxième mort en 3 mois. Il s'agit d'une personne qui, apparemment, après une tentative de suicide, est allée à l'hôpital et est décédée 10 jours plus tard. Quelques mots du collectif à Balécra. Les violences des keufs et les humiliations continuent tous les jours, malgré les luttes par les prisonniers. Il y a eu 2 grèves de la faim. Et tout décès dans cette tôle pour sans-papiers, c'est pas un simple accident, c'est le CRA même qui continue à tuer. Donc, à Balécra et à bas la justice complice. Je voulais aussi faire un big up aux copines et aux copains qui nous écoutent des Baumettes à Arles. Et on va vous passer un son de la part de Kamel pour terminer l'émission. C'est Saturé de la rumeur.
Merci à tout le monde et à la semaine prochaine.
Même un béret sur la tronche, une tradition sous le bras. J'aurais ni la gueule, ni l'emploi. Je pourrais développer, c'est ni l'heure, ni l'endroit. En parler d'une seule voix, quelque part dans des sales draps. Mes dièses sous le matelas, mes braises à l'abri du froid. Enchaîné aux francs CFA. À l'origine du feu, étincelle après étincelle. Fin de la lune de miel, ce sera nous contre eux. Tu glisses, tu suis, tu pousses, tu tiens. T'y crois, tu tires sur la laisse à chien. Saturé. Tu glisses, tu suis, tu pousses, tu tiens. T'y crois, tu tires sur la laisse à chien. Et puis croule sous le poids du quotidien. Bouffe tes miettes de pain. C'est fou ce que le bout du rouleau te va bien. Foutu comme l'écume des jours qui s'échouent sur les rotules. La merde est un virus qui s'inocule. La charge du CRS, la charge du procureur. La charge de la détresse, la banque ne fait jamais d'erreur. Vie raturée, dos courbaturée. La peur n'évitera pas le danger de se faire fracturer. Au bord du brasier, le crâne écrasé, rien dans le gésier, lourd comme un casier. Plus rien à recracher d'autre que des œdèmes. Je crains qu'on n'en ressorte pas indemne. Tu glisses, tu suis, tu pousses, tu tiens. T'y crois, tu tires sur la laisse à chien. Saturé. Tu glisses, tu suis, tu pousses, tu tiens. T'y crois, tu tires sur la laisse à chien. Ma chanson pèse une tonne, c'est ma peine et mon trône. Il se peut qu'un jour tu la fredonnes et que je te pardonne. Avant que la bile me laisse affaune, je ne dors que d'un œil rougi au feu d'une bougie. La nuit m'a franchi et le jour surgit comme un quadrillage de flics suivi du fisc. La vie est une trique, un fouet électrique. Les blessures se lèchent, ma chanson est une flèche, un jet, un souffle, une mèche dans une forêt trop sèche. Je pose ma croix, cette fois pour la couronne.